appel sur l'actualité, 33 1 53 92 64 40, Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans un instant. Votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI, vous le savez, tous les jours du lundi au vendredi, vous nous rejoignez à cette heure-ci pour poser vos questions à la rédaction, des questions pour mieux comprendre l'actualité. S'il vous manque donc des clés pour décrypter certains sujets que vous avez entendus ces dernières heures sur l'antenne de RFI, eh bien vous nous appelez, vous composez le 01 53 92 64 40. Si vous êtes à l'étranger, vous composez d'abord le 33 1 suivi du 53 92 64 40. Et vos questions, vous pouvez également nous les faire parvenir par courrier électronique. Notre adresse appel au pluriel @rfi.fr. Et puis dans une vingtaine de minutes, nous écouterons vos réactions nombreuses sur la situation à Madagascar où le climat, vous le savez, est extrêmement tendu. Hier, le président malgache et son rival, le maire de la capitale, ont lancé plusieurs appels au calme. Mais ce matin, le président Ravalomanana affirme qu'il n'a pas l'intention de rencontrer Ange Ratsoel, donc le maire de la capitale, et pour sa part, l'opposition se prépare en ce moment à un rassemblement à Tananarive. Alors quel regard portez-vous sur cette rivalité entre les deux hommes, qui est d'une certaine façon à l'origine des émeutes et des tensions de ces derniers jours? Comment expliquez-vous justement les troubles, les pillages de ces derniers jours à Tananarive, la capitale, mais aussi dans les principales villes du pays? Je vous rappelle que depuis lundi, au moins 34 personnes sont mortes à Antananarive, et on dénombre une dizaine de victimes en province. Vos commentaires, vos témoignages, vous qui nous écoutez à Madagascar, nous intéressent. N'hésitez pas à nous rejoindre. 33 1 53 92 64 40. Nous passons donc au standard avec une première question. Elle nous vient de Brazzaville. Bonjour Dimitri.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur l'antenne des RFI. Alors vous, vous avez une question concernant la récente dévaluation du rouble, la monnaie russe.
Oui. La semaine passée, j'ai appris sur RFI la dévaluation du rouble. Donc, les deux questions étaient de savoir sur quel contexte est-ce que le rouble a été dévalué.
Oui.
Et ma deuxième question est de savoir quelles sont ses conséquences sur l'économie russe.
Ouais. C'est vrai que vendredi dernier, le rouble a connu une nouvelle dévaluation d'environ 10%. Thierry Parizeau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes notre correspondant permanent à Moscou. Quand on observe bien l'évolution de la monnaie russe, on voit qu'en deux mois, elle a tout de même perdu près du quart de sa valeur. En fait, le rouble a connu une succession de mini-dévaluations, c'est ça?
En fait, depuis le mois de novembre, les autorités financières russes, la Banque centrale et le ministère de l'économie ont décidé de laisser le rouble partir à la baisse. Mais plutôt que de faire une dévaluation d'un coup, une dévaluation importante de 25 ou 30%, ils ont plutôt préféré de faire ce qu'ils appellent une série de mini-dévaluations. Donc ça a commencé en novembre. En deux mois, on a eu une vingtaine de ces mini-dévaluations. Donc au final, le résultat est le même. Le rouble est aujourd'hui entre 25 et 30% en dessous de sa valeur du mois de novembre. Alors pourquoi dévaluer le rouble? Bah, tout simplement parce que l'économie russe va mal, parce que l'économie russe va très mal. Elle est entrée en récession ce mois de décembre, en fin d'année donc 2009, à la fois à cause de la crise financière qui a touché de plein fouet cette économie émergente. La bourse a perdu les trois quarts de sa valeur, pour vous donner une idée. Donc, ce qui veut dire que toutes les entreprises russes, Gazprom en tête, ont perdu 70, 75, 80% de leur capitalisation boursière. C'est énorme. Les licenciements sont nombreux. Alors, vous le savez aussi, en Russie, les informations sont plutôt contrôlées. Et sur la crise financière, c'est là qu'on voit que le Kremlin et l'État jugent ça extrêmement important. Sur la crise financière, donc, ces informations sont très contrôlées. Donc, on n'a pas de chiffres officiels. Mais on sait par certains biais qu'il y a déjà eu des centaines de milliers de licenciements à travers ce grand pays qu'est la Russie. Et puis l'autre problème, indépendamment de la crise financière, c'est la chute des prix du pétrole. C'est-à-dire que la Russie vit essentiellement de l'exportation de gaz et de pétrole.
Les hydrocarbures,
c'est la principale source de devises du pays. Donc le rouble était très attaqué.
Alors, les conséquences de cette dévaluation, c'est espérer limiter la casse, c'est ça, limiter la crise?
Alors l'idée générale, effectivement, c'est de limiter la casse. C'est-à-dire que les autorités la semaine dernière ont dit bon, on accepte encore une dévaluation de 10% du rouble, et ensuite on estime que le rouble aura atteint entre guillemets sa valeur de marché aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'après la crise financière, après la chute des prix du pétrole, la nouvelle valeur du rouble qu'on a désormais serait, selon les autorités, la bonne valeur du rouble à partir de laquelle l'économie russe peut redémarrer. Enfin, dans l'immédiat, pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les réserves de change du pays ont baissé de manière dramatique. La Russie avait énormément d'argent mis de côté, si on peut dire, durant les années de pétrole et de gaz toujours plus chers. On parlait donc de 600 milliards de dollars de réserves de change. Il n'y en a plus que 450 aujourd'hui. Et les 150 milliards perdus en quelques mois, c'est de l'argent qui a servi à soutenir le rouble, malgré tout, pour ne pas qu'il s'effondre totalement. Et puis, l'autre chose qu'on voit aussi, c'est que les citoyens russes ont une nouvelle fois perdu toute confiance dans leur monnaie. Ils ont massivement changé leurs économies en roubles. Ils les ont changées en dollars ou en euros. Oui. Et ce qu'on voit enfin, c'est une inflation gigantesque, c'est-à-dire qu'il y a énormément de produits d'importation en Russie, notamment pour tout ce qui est alimentaire, et les prix ont énormément augmenté ces dernières semaines.
Ouais, et c'est vrai qu'on le voit bien, les Russes convertissent de plus en plus leur monnaie. Tout le monde a encore en tête la dévaluation de 1998, c'est encore très présent dans les mémoires. En 98, je crois qu'en l'espace de quelques jours, le rouble avait perdu 70% de sa valeur.
En l'espace de quelques jours, en fait, en 98, les économies d'une vie permettaient d'acheter beaucoup de cornichons, quoi. On espérait avoir une voiture, et puis finalement on se retrouvait avec rien.
Ouais. Dimitri, à Brazzaville, est-ce qu'on a répondu à vos questions ?
Oui, parfaitement, ouais. Merci vraiment.
Merci surtout à Thierry Parizeau, notre correspondant à Moscou. À bientôt Thierry, merci d'avoir été avec nous. Merci. Et on remercie Dimitri de nous avoir appelé de Brazzaville. 01 53 92 64 40, vous avez des questions pour mieux comprendre l'actualité, n'hésitez pas évidemment à nous contacter. Alain est à Kinshasa, bonjour Alain.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors vous avez une question concernant Rose Kabuye, la directrice du protocole de la présidence rwandaise.
Exactement, il y a une semaine, si je ne me trompe pas, j'ai appris sur les antennes de RFI que l'Allemagne allait normaliser ses relations avec le Rwanda. Alors dans ce contexte, ça c'est la petite première question, quelle sera la suite du dossier Rose Kabuye, chef du protocole du président Kagame?
Alors la suite, on va déjà répondre à cette première question avec Catherine Ninin qui suit évidemment ce dossier pour RFI. Bonjour Catherine.
Bonjour Juan, bonjour à Alain, notre auditeur.
On replante un tout petit peu le décor. Rose Kabuye, donc directrice du protocole de la présidence rwandaise, arrêtée en décembre dernier à Francfort en Allemagne. Elle a ensuite été extradée vers la France où elle a été mise en examen puisqu'elle est soupçonnée d'être impliquée dans l'attentat contre l'avion du président rwandais à Biarimana. C'était le 6 avril 1994. Où en est son dossier à l'heure actuelle ?
D'une part, soyons clairs, la normalisation des relations diplomatiques entre l'Allemagne et le Rwanda n'a aucune incidence sur les poursuites judiciaires contre Rose Kabuye, puisque cette dernière, vous venez de le dire, est poursuivie par la justice française et non pas allemande. Donc, vous le rappeliez, Rose Kabuye a été interpellée en Allemagne le 9 novembre dernier, mais c'était sous le coup d'un mandat d'arrêt international qui avait été délivrée en 2006 par la France, par le juge Bruguière, donc, et elle a donc été extradée vers la France. Mmh. Alors à cette époque, les autorités rwandaises avaient manifesté leur mécontentement en rappelant à Kigali leur ambassadeur en Allemagne, tandis que son homologue allemand à Kigali recevait une lettre le priant de quitter le Rwanda. Ceci dit, les relations diplomatiques entre les deux pays n'ont été rompues, et aujourd'hui donc ces relations sont normalisées. Alors, quant à la chef du protocole rwandais, qui est donc soupçonnée par la justice française d'être impliquée dans cet attentat du 6 avril, elle a donc été inculpée dans ce dossier pour deux chefs d'accusation, complicité d'assassinat et association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Cette inculpation a permis à Rose Kabuye et à ses avocats d'avoir accès au dossier ouvert par le juge Bruguière, qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Alors, nous sommes encore dans la phase d'instruction. Rose Kabuye a déjà été présentée devant le juge Marc Trévidic, le juge qui a succédé au juge Bruguière. Elle a été laissée en liberté. À la veille de Noël, le juge lui a du reste permis de rentrer au Rwanda pour passer les fêtes. Oui. Et aujourd'hui, pour la première fois, Rose Kabuye, cette combattante de la première heure du Front patriotique rwandais, sera auditionnée sur le fond par le juge français.
Alors Alain, je croyais, Alain, vous avez d'autres questions hein, concernant le dossier de Rose Kabuye?
Oui, je crois que peut-être qu'elle a répondu en partie, parce que je voulais savoir si elle est toujours au Rwanda ou elle est rentrée en France.
Ah, elle est rentrée en France, non, elle est revenue effectivement il y a quelques jours.
Elle est rentrée en France le 10 janvier dernier, ouais. Et donc elle est auditionnée aujourd'hui même. Selon ses avocats, Rose Kabuye est disposée à s'expliquer en toute transparence, pour montrer qu'elle n'est ni directement ou indirectement impliquée dans cet attentat. Pour mémoire, il faut se souvenir que le 6 avril 1994, Madame Kabuye faisait partie de la petite délégation du FPR qui se trouvait dans les bâtiments du Parlement rwandais lorsque l'avion du président Habyarimana a été abattu. Aujourd'hui, par la voix de Madame Kabuye, Kigali entend en fait se défendre sur ce dossier qui empoisonne les relations entre la France et le Rwanda depuis, rappelons-le, l'émission des 9 mandats d'arrêt contre des proches du président Kagame. Ouais.
Merci beaucoup Catherine. Alain, on a répondu à vos questions.
Merci, merci, parfait. Bonne journée à Paris.
Bonne journée à vous à Kinshasa. Merci Catherine Ninin. 33 1 53 92 64 40. N'oubliez pas dans quelques minutes vos réactions sur la situation à Madagascar, vos commentaires, vos analyses, vos témoignages. Vous qui êtes sur place nous intéresse, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous rappelle le principe, hein, vous nous contactez, nous notons votre prénom, votre numéro de téléphone et on vous rappelle dans les minutes qui suivent. Kumba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Bamako, au Mali.
Oui.
Et
oui.
Vous avez des questions concernant Barack Obama.
Excusez-moi. La semaine dernière, précisément mercredi, j'ai entendu sur RFI que le président Obama interdisait à ses collaborateurs de prendre des cadeaux et de l'argent de lobby. Alors, est-ce là une vraie rupture ou alors, Juan, ceci est déjà arrivé en Amérique sous d'autres présidents?
Alors, c'est vrai que les lobbies font partie de la vie politique américaine. Ils sont, on peut le dire, omniprésents à Washington. Michel Guéral, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que la semaine dernière, Barack Obama a annoncé ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler même une révolution, c'est ça?
Oui, on peut dire effectivement que c'est une rupture d'une certaine façon. Bon, on peut entrer un petit peu dans le détail, oui, de ces mesures. C'est une espèce de cordon sanitaire que Barack Obama a voulu instaurer autour de ses collaborateurs. Il y a l'interdiction effectivement de recevoir des cadeaux et l'interdiction, si le haut fonctionnaire a été lobbyiste avant, de travailler sur des sujets qu'il traitait en tant que lobbyiste. Et de même, si ce collaborateur quitte la fonction publique, il ne pourra pas reprendre ses activités de lobbyiste tant que Barack Obama sera à la Maison-Blanche, ce qui limite effectivement beaucoup la pratique de ce que certains appellent le tourniquet ou encore le pantouflage, c'est-à-dire la possibilité pour un juriste talentueux, par exemple, de travailler pour un groupe de pression sur tel ou tel dossier et puis d'être recruté par l'administration dans ce même domaine où il faut bien le reconnaître, il est censé être devenu très compétent, puis de retourner encore dans le privé, etc. Tous ces allers retours qui ne sont pas forcément bons pour la transparence et l'impartialité d'une administration publique. Alors, est-ce que c'est une rupture? Il y a déjà eu, en fait, des réglementations tentant de limiter les effets pervers du lobbyisme. Mais ça ne peut pas être véritablement interdit. Et d'ailleurs, ça ne l'est pas, au terme des mesures annoncées par Barack Obama, parce que c'est tout simplement aux États-Unis un droit constitutionnel que de pouvoir faire du lobbyisme.
C'est-à-dire, ce sont des groupes de pression qui essaient soit de faire adopter de nouvelles lois, soit de les modifier. Hein, c'est
exactement,
ça,
oui. Et c'est un ou alors dans le cadre de la haute administration, ce que Barack Obama vise de pouvoir avoir des contrats justement publics en faveur de telle ou telle entreprise, etc. Donc ce premier amendement de la Constitution protège le droit pour les individus de pétitionner le gouvernement. Alors il y a bien eu déjà des lois pour imposer un maximum de transparence à tout ce milieu qui prospère effectivement à Washington. Les entreprises de lobbyisme sont obligées en principe de rendre leurs comptes publics, de faire des déclarations semestrielles, et les élus ne peuvent déjà pas accepter de cadeaux au-delà d'un certain montant qui est assez faible, hein, puisque ce sont les élus du Congrès qui sont les principales cibles, effectivement, des lobbyistes, avec les hauts fonctionnaires qui peuvent peser pour l'attribution de contrats. Mais il y a moyen de jouer sur les mots quant aux cadeaux possibles, des voyages d'information, par exemple, pour à la place d'un voyage qui est plutôt un voyage de loisirs, et puis surtout la participation des entreprises aux finances des partis pour les élections reste un moyen de pression important, donc le lobbyisme a encore de beaux jours devant lui.
Ouais, ça ne signifie pas donc que Barack Obama va chasser les lobbies de Washington. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Kumba?
Absolument, mais j'en avais une deuxième quand même.
Ah ben allez-y, posez-la.
Oui. Est-ce que Barack Obama peut travailler sans que les lobbyistes soient là? Comment compte-t-il s'y prendre?
Les lobbyistes seront toujours là, c'est oui, ça. Simplement, oui, ce sera plus contrôlé, davantage contrôlé. Hein.
Il ne s'interdit pas de recourir d'ailleurs lui-même à des lobbyistes de talent, puisqu'il en a recruté quelques-uns. Mais ce dont il ne veut plus, c'est le mélange des genres, la confusion des rôles, que quelqu'un puisse être à la fois, et en même temps, un puissant haut fonctionnaire et quelqu'un qui reste l'obligé des groupes de pression.
Merci Michel Guéral. Bonne journée, Kumba. Merci d'avoir appelé de Bamako, au Mali. Mamadou nous rejoint, il est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Mamadou.
Bonjour Juan Bouvel.
Bienvenue, quelles sont vos questions?
En fait, la question c'est sur la crise israélo-palestinienne.
Oui.
Israël impose depuis 18 mois un blocus sur la bande de Gaza, ce qui oblige effectivement les populations à recourir au tunnel pour se ravitailler avec la frontière de l'Égypte. Maintenant ma question c'est pourquoi l'Égypte n'ouvre-t-il pas officiellement sa frontière avec la bande de Gaza, pour mettre fin à leur souffrance.
Ah, Frédéric Misselin, bonjour.
Bonjour.
Je crois qu'il y a près de 14 kilomètres de frontière entre l'Égypte et le sud de la bande de Gaza. Il y a ce qu'on appelle le terminal de Rafah qui est fermé. L'Égypte pourrait l'ouvrir. Pourquoi ce terminal est-il fermé?
Alors, il y a le terminal de Rafah et puis il y a ces donc 14 kilomètres qu'on appelle le couloir de Philadelphie, avec donc d'un côté l'Égypte et puis de l'autre côté l'autorité palestinienne qui n'est plus là puisque c'est le Hamas qui a pris le pouvoir. Ouais. Et puis il y a également Israël qui rentre dans le jeu et qui décide de oui ou non de l'ouverture des points de frontière. Alors pourquoi l'Égypte n'a pas ouvert ce terminal? Tout simplement parce que actuellement côté égyptien, il y a un peu plus de 750 policiers qui sont déployés pour surveiller la frontière.
D'ailleurs ce nombre, ce chiffre de 750 figure sur un accord.
Exactement.
Ce n'est pas un nombre dû au hasard.
Exactement. Et en fait qui s'explique par l'histoire puisque ça date en fait du traité de paix entre Israël et l'Égypte en 1979, c'est les accord de Camp David, et là il a été décidé que cette zone frontalière serait une zone démilitarisée côté égyptien, ce qui fait que les Égyptiens n'ont pas le droit à plus de tant d'hommes sur le terrain et des armes uniquement légères. En 2005, Israël s'est retiré de la bande de Gaza et à ce moment-là on a revisité un petit peu cet accord. L'Égypte a eu le droit d'amener davantage d'hommes sur le terrain et en même temps il s'est mis en place un fonctionnement quadripartite de la gestion de ces 14 kilomètres de frontière, c'est-à-dire que on a l'Égypte d'un côté, l'autorité palestinienne, Israël qui surveille ce qui se passe dans le terminal de Rafah, pas physiquement mais grâce à des caméras de surveillance depuis un autre point de contrôle situé en Israël, et puis
l'Union européenne
qui avait dépêché aussi sur place des douaniers. Alors ce fonctionnement, ça marchait un peu qu'à un cas jusqu'en 2006 au moment où le soldat Gilad Shalit a été enlevé. Donc là, Israël a dit, on a des problèmes de sécurité à la frontière, donc on ouvre ou pas selon... Et dès que un des quatre acteurs n'est plus là, l'accord ne peut plus fonctionner.
Et l'acteur manquant, c'est l'autorité palestinienne.
Ensuite, à partir du coup de force du Hamas en 2007, c'est l'autorité palestinienne qui a manqué. Donc il faut qu'il y ait à chaque fois une concordance des quatre acteurs, pour que les choses fonctionnent. Et c'est ce que dit l'Égypte aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. fonctionne pas, donc il n'y a pas de raison que nous, on ouvre simplement de notre côté. Il faut respecter l'accord international.
Voilà. Mamadou, est-ce que vous comprenez mieux maintenant la situation le long de cette frontière?
Oui, vraiment, c'est clair.
Bon, bah tant mieux. Merci à vous de nous avoir appelé d'Abidjan. Vous souhaite une bonne journée. Merci Frédéric Misselin d'être venu une fois de plus dans ce studio répondre aux questions des auditeurs. Vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à vous rendre tout de suite sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. D'autres questions à la rédaction demain, vous pouvez nous appeler d'ici là, 01 53 92 64 40. Notre adresse électronique appel au pluriel .actu@rfi.fr. À suivre une synthèse de l'actualité et dans 3 minutes, nous serons de retour pour le débat sur la situation à Madagascar. À tout de suite.